Le 18-20, c'est d'abord comme chaque soir ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 26 octobre avec le journal d'Hélène Fromanti. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence avec la visite de Marine Le Pen à Budapest.
Et oui, nous reviendrons sur ce déplacement. Le président Viktor Orban a reçu la candidate du Rassemblement National à la présidentielle et avec la manière, un mois après le passage d'Éric Zemmour, lui, son tambour ni trompette. Première journée aussi d'audience au procès du meurtre de Mireille Knoll. La cour passe au crible la personnalité des deux accusés soupçonnés d'antisémitisme. Nous serons aussi au Soudan, où les militaires tentent de s'organiser après leur prise de pouvoir. Et puis nous reviendrons sur cette panne informatique, les personnes sous bracelet électronique perdues de vue hier pendant plus de 5 heures, Fabienne.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir en Géorgie, qui va voter pour le deuxième tour des élections municipales dimanche prochain, dans une atmosphère très confuse, sur fond de retour de l'ancien président Saakachvili, en prison et en grève de la faim depuis qu'il a remis les pieds dans son pays. Bref, on essaye de démêler toute cette grande confusion. À 19h20, c'est le téléphone sonne avec ce paradoxe. Ce soir, tout le monde veut manger sain et c'est bien normal. Les injonctions à regarder les produits bio sont partout, c'est normal aussi. Mais la filière, elle, marque le pas. C'est le cas du lait, des œufs, des pommes, des carottes par exemple, au point que certains produits sont déclassés en conventionnel, ce qui est un comble. Le bio marque le pas. Est-ce que c'est un palier ou un plafond? Comment trouver de nouveaux clients? On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Pendant longtemps, il n'a pas voulu s'afficher avec elle.
Le président hongrois ultra-conservateur Viktor Orban a finalement reçu Marine Le Pen cet après-midi à Budapest. Une démonstration de forme pour la candidate du Rassemblement National en quête de crédibilité à 6 mois de la présidentielle en France. Et là où Éric Zemmour, son rival, était passé en coup de vent il y a un mois, Marine Le Pen a eu droit au tapis rouge, ou presque. Adrien Becht à Budapest pour France Inter.
Deux pupitres, des brassées de drapeaux français et hongrois de part et d'autre. D'un côté, le Premier ministre, de l'autre, Marine Le Pen qui savoure. Jamais elle n'a eu un tel accueil. Les égards de Viktor Orban, les mots doux aussi.
C'est un grand honneur de recevoir aujourd'hui Marine Le Pen. C'est toujours un honneur de recevoir un homme ou une femme politique de cette envergure, donc un grand merci.
Le leader des nationalistes européens lui a accordé près de 4 heures. Tapis rouge à l'entrée du palais gouvernemental, petit passage par la terrasse avec vue sur le Danube, déjeuner en petit comité, et Marine Le Pen qui tente la stratégie du soutien contre soutien.
Sachez que je prends l'engagement devant vous, si je suis élue présidente de la République française le 24 avril prochain, de vous apporter le soutien de la France et de son peuple.
Des mots aimables pour un Viktor Orban en campagne, mais l'inverse est-il vrai? Le Premier ministre hongrois, qui a aussi reçu Éric Zemmour il y a un mois, esquive.
Nous respectons le peuple français. Nous ne pensons pas du tout que nous devrions prendre une position concernant une décision qui ne regarde que le peuple français. Surtout s'il s'agit d'une question de personne.
Rien de concret, donc pas plus d'ailleurs sur l'idée d'un grand groupe nationaliste au Parlement européen. Même Marine Le Pen a reconnu qu'elle espérait qu'il se ferait un jour.
Adrien Becht à Budapest pour France Inter. Au procès du meurtre de Mireille Knoll, la cour tente de cerner deux hommes qui se rejettent la responsabilité. Deux hommes jugés depuis ce matin à la cour d'assises de Paris, plus de 3 ans après la mort de cette dame juive de 85 ans. En mars 2018, Mireille Knoll est tuée à 11 coups de couteau, partiellement calcinée dans son appartement du 11e arrondissement de Paris, provoquant une vive émotion. Dans le box depuis aujourd'hui, il y a donc ces deux accusés qui comparaissent pour meurtre à caractère antisémite. La mère de l'un d'entre eux, voisine de Mireille Knoll, comparait-elle pour avoir fait disparaître des preuves? Mathilde Vinceneuve, vous assistez à l'audience depuis ce matin pour France Inter et la cour se penche donc sur la personnalité des accusés.
Oui, et la cour s'intéresse d'abord à l'accusée Yassine Mihoub, 31 ans. C'est sa mère qui est entendue la première. Quand elle parle de son fils, elle évoque sa violence. Il voulait taper sa sœur souvent quand il buvait, une fois avec un couteau, dit-elle. À la barre, Yassine Mihoub est très sûr de lui, avec ses lunettes qui lui donnent l'air plus âgé. Il ne reconnaît pas le meurtre de Mireille Knoll, son amie, sa confidente, dit-il. Il avoue seulement l'incendie et provoque parfois quand le président le questionne, notamment sur ses multiples condamnations. pour des violences, des agressions sexuelles, des menaces, des fausses alertes à la bombe. Je pense que mon problème, c'est l'alcool, assure Yassine Mioub. Ça ne me rend pas dangereux, mais à fleur de peau. Sur son rapport à la religion, il explique être né musulman et faire la prière, oui, mais pour la gestuelle en prison. C'est là qu'il a rencontré le deuxième accusé, Alex Karim Bakuz, 25 ans, plus discret dans le box. Leur terrain d'entente, selon Yassine Mioub, le shit et l'alcool, là encore.
Mathilde Vincenet, merci, en direct de la cour d'assises de Paris avec les moyens techniques d'Yves Lehors. Une enquête pour tentative d'homicide en cours à Lyon au lendemain d'une soirée tendue dans le quartier sensible de la Duchère. Selon la préfecture, 3 agents de la brigade anti-criminalité ont été pris pour cible. Hier soir, une dizaine de tirs alors qu'ils surveillaient ces policiers à un point de deal. Il n'y a pas eu de blessés. Des CRS sont envoyés en renfort sur place ce soir et demain.
Dans le contexte d'épidémie de Covid, le nombre d'accidents du travail a chuté en France l'an dernier.
Moins 17,7% d'accidents du travail reconnus selon les chiffres de l'assurance maladie. Magali Homo, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Ça n'a rien d'étonnant, en conséquence directe de la crise sanitaire et de la baisse de l'activité dans le pays, Magali.
Ouais, si on s'est globalement moins fait mal au travail, ça ne vaut pas pour tous les secteurs. Les ambulanciers, les salariés de centrales d'achat ou encore les livreurs, eux, ne se sont jamais arrêtés. Au contraire, ils ont vu leur activité augmenter et donc le nombre d'accidents du travail se multiplier, plus 14% par exemple pour la vente à distance. Le rapport révèle également une diminution du nombre d'accidents de la route en allant à son bureau dans la plupart des grandes régions. Et pour cause, avec les confinements, on s'est moins déplacé en voiture dans le cadre de l'entreprise. Ce n'est pas vrai en revanche pour les vélos ou trottinettes. Là, les accidents ont augmenté de près de 15%. Le télétravail n'a pas mis fin aux problèmes de dos ou d'articulation, mais ces maladies liées à des gestes répétitifs ont reculé, de même que les cancers d'origine professionnelle. Le gros point noir, c'est surtout la santé mentale, anxiété, stress, dépression. Les travailleurs en ont souffert lourdement, 37% de plus qu'en 2019. Là aussi, la pandémie est passée par là.
Magali Homo, et des chiffres et informations à retrouver sur le site internet de France Inter. La vaccination anti-Covid fait son bonhomme de chemin chez les soignants, obligés depuis un mois et demi maintenant d'avoir à avoir 2 doses pour exercer leur profession. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, 2/3 des personnels qui avaient été initialement suspendus faute de vaccin sont désormais protégés contre le virus. Avec une nuance toutefois, en Martinique, où une partie des soignants refuse toujours la piqûre, poussant même le gouvernement à dépêcher des médiateurs sur l'île pour tenter de convaincre les récalcitrants. Et puis la vaccination anti-Covid à l'étranger, les Italiens pourront tous recevoir une 3e dose à partir de janvier, une première en Europe. En bref, l'Assemblée nationale vient d'adopter le budget de la sécurité sociale pour 2022, adoption en première lecture.
Au Soudan, les proches du Premier ministre appellent les putschistes à sa libération immédiate.
Le chef du gouvernement soudanais et d'autres responsables politiques locaux ont été arrêtés hier par l'armée soudanaise dans la foulée du coup d'état militaire. Et au lendemain de ce coup de force, le chef des armées s'est exprimé dans une conférence de presse à la mi-journée pour préciser la suite des événements. Les précisions de Christian Chesneau.
Le général Abdel Fattah El-Burhan ne se considère pas comme un putschiste. Si l'armée a pris le pouvoir, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse à Khartoum, c'est pour rectifier la trajectoire de la transition politique démarrée il y a 2 ans après le renversement par la rue du général Omar El-Béchir.
Nous avons discuté avec le Premier ministre de la nécessité de construire une solution ensemble. Mais nous n'avons pas pu parvenir à un accord. Les forces politiques ont refusé. La situation est arrivée à une impasse. Pour les forces armées, il est alors devenu clair qu'elles ne pouvaient plus se taire. On a donc pris cette décision. Nous voulons continuer à réaliser la volonté du peuple pour un état de liberté, de paix et de justice.
Quant au Premier ministre, arrêté et démis de ses fonctions, il se trouverait assigné à résidence dans la maison même du général Abdel Fattah El-Burhan. Il est en bonne santé et rentrera chez lui quand la crise sera terminée, a certifié ce dernier. Évidemment, sans préciser la durée de la mise à l'écart du chef de gouvernement.
Les précisions de Christian Chesneau et concernant la Hongrie qu'on évoquait en début de journal, Viktor Orban est bien évidemment Premier ministre et non pas président. Plus une goutte de carburant dans les stations-service en Iran. Panne générale de la distribution au niveau national depuis ce midi. Selon la plus haute instance sécuritaire du pays, ce serait dû à une cyberattaque. Pas plus de détails pour le moment.
Une autre panne en France, cette fois longue de 5h20.
Et oui, plus de 5 heures pendant lesquelles les personnes placées sous bracelet électronique, d'ordinaire suivies à la trace par informatique, ces personnes sont sorties des radars. Hier, du milieu de l'après-midi en début de soirée, plus de nouvelles à cause donc d'une défaillance dans le dispositif de contrôle géré par la société Thales. Pour autant, Ariane Grissel, l'administration pénitentiaire assure qu'il n'y a pas eu d'incident.
Oui, il y a en France 14 500 personnes sous bracelet électronique, 350 bracelets anti-rapprochement. Selon l'administration pénitentiaire, cette panne a affecté la moitié de ces dispositifs dans tout le pays. On rappelle que ces appareils émettent une alarme si une personne franchit un périmètre donné ou ne se trouve pas là où elle devrait être à l'heure prévue. Or, ce qui s'est passé hier, c'est que les alertes ont bien été émises côté bracelet, mais aucun signal n'a retenti chez les autorités. L'alarme est en quelque sorte restée coincée dans le système géré par Thales. Silence total pendant 2 heures, entre 16h et 18h. Puis les bracelets se sont peu à peu reconnectés jusqu'à 22h et les signaux d'alerte sont arrivés. Depuis, l'administration pénitentiaire vérifie donc a posteriori ce qui s'est passé pour chaque appareil qui a déclenché un signal. Elle assure que à ce stade, rien de grave n'a été détecté. Les alarmes peuvent par exemple sonner si quelqu'un a quelques minutes de retard en rentrant du travail. Le ministère de la Justice lui aimerait maintenant savoir comment une telle panne a pu se produire. Les responsables de Thales sont convoqués chez Éric Dupond-Moretti très prochainement, nous dit-on au ministère pour s'expliquer.
Merci Ariane Grissel du service police-justice de France Inter. Il va vraiment falloir s'y mettre pour préserver la planète. C'est en substance le message pas si surprenant de l'Organisation des Nations Unies à quelques jours de la COP26. Selon l'ONU, les engagements des États devraient être 7 fois plus ambitieux si l'on veut limiter le réchauffement climatique à plus de 1,5 degré et ainsi respecter l'accord de Paris. La saison des prix littéraires se poursuit avec le prix Médicis décerné ce midi à Christine Angot pour son ouvrage Le Voyage dans l'Est qui relate l'inceste dont la romancière de 62 ans a été victime. Christine Angot qu'on entendra dans le journal de 19h d'Hélène Philly. Elle fait partie, Christine Angot, des 4 finalistes du prix Goncourt. Verdict mercredi prochain. À 19h, passé de 12 minutes.
18,
France...
passez vite.
18 sur France Inter. On monte sur les planches maintenant avec des troupes de théâtre, Fabienne, des 4 coins du monde rassemblées en ce moment sur scène à Lyon au festival Sens Interdit. 21 spectacles et 13 pays représentés, du Liban au Chili en passant par la Syrie et le Kosovo. Les voir jouer, c'est peut-être un détail pour nous, mais pour ces artistes qui n'ont plus de travail dans leur pays à cause de l'impandémie, eh bien ça veut dire beaucoup. Reportage Stéphane Capron.
Ça, c'est né dans des conditions incroyables par la simple volonté de ces artistes. Eh bien, ils sont là, tant mieux.
Ce festival est tenu à bout de bras depuis 15 ans par Patrick Penaud, qui tout au long de l'année tisse des liens avec ses artistes. Il était hors de question de les abandonner cette année.
Il faut penser que tous ces spectacles-là, ils ont été en général répétés, créés dans des conditions incroyables. On ne peut pas dire que le système sanitaire les protège tellement. On ne peut pas dire non plus que le système gouvernemental de la culture les indemnise ou les subventionne. Ça n'existe pas.
Parmi les artistes qui souffrent, il y a ceux du Liban.
Au Liban, la culture, elle n'est pas essentielle, elle est vitale.
L'autrice et metteuse en scène, Christelle Roder.
Sinon, il n'y aura plus rien. C'est le seul moyen de vivre, de se sentir libre, de se sentir vivant, de se donner de la joie.
Elle s'interroge sur le devenir du théâtre dans son pays.
Je me pose des questions par rapport au métier de théâtre pour les générations qui sont plus jeunes. Comment ils vont faire quand tout est en train de s'effondrer? C'est pas uniquement que pour le métier de théâtre, mais pour tous les autres. Les hôpitaux, l'éducation, on fait avec, parce que c'est des histoires qui doivent survivre.
Christelle Roder est venue présenter Augure, un spectacle bouleversant avec 2 grandes actrices libanaises programmées dans d'autres festivals à Montpellier, Marseille et Ivry-sur-Seine.
Stéphane Capron et le festival Sens Interdit, c'est jusqu'à samedi soir dans 26 lieux de l'agglomération lyonnaise. Profitez-en.